L'immeuble s'effondre à Kaolack, un tué et de nombreux blessés. Ce matin, nous serons en ligne dans un instant avec notre reporter Ibrahim Benjamin Diagne. Les médias au banc des accusés pour le pouvoir sénégalais, c'est la presse qui a jeté l'huile sur le feu lors des manifestations des 23 et 27 juin. Des citoyens interrogés sont d'un autre avis. Le ministre de la Communication, Mustapha Guirassy, invite à la concertation. BFM 2011, à Ziguinchor, des correcteurs menacent d'arrêter le travail s'ils ne sont pas payés. Dans l'actualité sportive, affaire de l'audition d'Elhadj Houssaini Diouf par la commission de discipline de la Fédération de football. L'ancien capitaine des Lions a été invité à s'expliquer sur les propos tenus dans la presse à l'encontre des fédéraux et autres membres du staff technique de l'équipe nationale du Sénégal. Et puis aux environs de 12h30, nous vous donnerons la parole pour le débat du jour et ça va porter sur le BFM 2011. Que pensez-vous de la décision du gouvernement de supprimer la double correction? Bonjour Ibrahim Benjamin Diagne. L'effondrement d'un immeuble à Kaolack fait un mort, plusieurs personnes blessées. Le bâtiment était en train d'être démoli justement.
Tout à fait. Et d'ailleurs, encore sans vie, deux portiers disparus sont encore sous les décombres de cet immeuble qui s'est affaissé il y a quelques minutes au quartier Léonin, pris d'assaut à l'instant même par des dizaines de personnes et parents des victimes. Et tout l'arsenal des sapeurs-pompiers déployés, caterpillars, camions, etc. Et tout cela pour sortir ce cadavre et ses collègues ouvriers qui crient encore, qui crient au secours. Une dure épreuve pour les hommes de Sengan Diagne qui ont réussi quand même à évacuer quatre blessés graves. Cet immeuble donc imposant appartient au leader du RP, Serigne Mamounia, ce qui voulait en faire un complexe. Mais le plus du samedi dernier avait emporté déjà une partie de la bâtisse parce que le travail était mal fait du temps. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, Mamadou, que les ouvriers voulaient le démolir. Et cet exercice sera fatal pour ces ouvriers malheureusement, dont certains sont gravement blessés. Et il y a d'abord un corps vide, puisque aussi la bâtisse va s'effondre sur eux et le fil électrique est même coupé. En attendant, les manœuvres se poursuivent, Mamadou, en attendant de vous recontacter pour d'autres événements. C'était Ibrahim Benjamin Diagne, en direct de Léonan pour la RFM.
Merci Ibrahim Benjamin Diagne.
RFM, la radio de toute l'actualité.
Menace de suspension des corrections du BFM à Ziguinchor. Les professeurs affiliés à l'Union des enseignants du Sénégal demandent ainsi le paiement de leur indemnité de l'année dernière. Les autorités académiques minimisent la portée d'une telle menace et assurent que l'argent dû sera disponible à la fin de ce mois. Abdoulaye Sambou.
Professeur, membre de l'Union des enseignants du Sénégal, en guerre contre les autorités académiques de Ziguinchor, il menace de suspendre la correction du BFM pour exiger le paiement de leurs indemnités de correction de l'année dernière. Ces derniers restent catégoriques sur leur position. Hassan Badiane est leur porte-parole.
Nous avons pensé que l'autorité n'a pas mis la volonté de collaborer avec les partenaires sociaux. Parce que vous vous rappelez, on avait fait cette menace-là avant les épreuves physiques du BFM. Donc ça se répète. C'est une manque de considération envers les enseignants. Donc, nous demandons à tous les correcteurs de la région de Ziguinchor de suspendre la correction dès demain parce que le résultat, la conséquence sera nationale parce qu'on va allonger la durée de l'examen et à ce moment-là, on situera les responsabilités. Parce que je ne peux pas comprendre que le ministre ait donné des instructions et que jusqu'à preuve du contraire, ces instructions ne sont pas respectées. Le motif, c'est le paiement des collègues qu'on a omis l'année passée.
Joint au téléphone, l'inspecteur d'Académie de Ziguinchor dénonce cette pression exercée par ses responsables syndicales sur les autorités. En réalité, soutien Ganassène sera le concerné qu'une vingtaine de professeurs officiants dans le département de Bignona. Les engagements ont été faits et envoyés au ministère des Finances. D'ici la fin de ce mois, ces professeurs pourraient entrer dans leurs fonds, précise le patron de l'école dans la région sud. Abdoulaye Sambou, Ziguinchor, RFM.
La double correction est éliminée cette année. Un décret est publié dans ce sens. Une décision diversement accueillie par les correcteurs du BFM. Reportage dans un centre d'examen de la banlieue de Dakar, Salif Sow.
trouvés dans une salle de classe qui leur est réservée. Poulmendi et ses collègues procèdent à la correction des copies. Le professeur de langue, histoire et géographie ne trouve pas utile la double correction.
Je ne trouve pas vraiment opportun de faire la double correction. Du moment où dans certaines matières, il y a déjà des corrigés. Pour moi, je ne trouve pas vraiment l'opportunité de faire la double correction parce que c'est une perte de temps.
Un avis que ne partage pas le chef de centre notaire, M. Hadji, avance que la double correction rassurait à la fois le correcteur et le candidat.
La double correction, elle permettait quand de mettre un minimum de sécurité au niveau de la copie pour s'assurer effectivement que la note qui a été marquée sur la copie, c'est effectivement cette note que mérite le candidat.
Une seule correction ou une double correction, c'est du pareil au même pour ce professeur de SVT. Monsieur Diallo, copie en main, corrige les épreuves du BFM depuis 30 ans.
Il n'y a pas beaucoup d'écart, hein. Même quand on fait les confrontations, parfois sur un paquet de 100 copies, il ne peut pas y avoir plus de 2 de différence ou de 3 différences. Donc c'est presque la même chose.
La double correction au BFM est éliminée cette année, mais les correcteurs sont appelés à se concerter et à s'appuyer sur les corrigés avant d'attribuer des notes aux candidats. Salissou Guédiouaï, Radio Futur Média.
Et vous écoutez le Grand Journal sur Radio Futur Média.
Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles.
RFM, la radio de toute l'actualité.
Profession chef de village, le président Abdoulaye Wade a promis hier aux chefs de village du pays un statut qui va valoriser leur fonction. Des voix dissonantes au lendemain de cette rencontre tenue à Dakar. Dans la région de Sédhiou, des villages qui ont boycotté la rencontre situent les priorités ailleurs. Ils parlent de démarches électoralistes de la part du chef de l'État en vue de la présidentielle 2012. Bakary Konté.
La rencontre entre Wade et les chefs de village a laissé couler beaucoup de salive dans les villages d'Ipakao. Cet homme, un habitant de Soukoutoto, crache sa colère.
Est-ce que réellement il ne va pas acheter la population? Parce que tout ce qu'il dit, on sait qu'il est là à acheter le monde et il gaspille l'argent du pays. Donc ça, c'est pas normal de dire qu'il va à la campagne comme ça, il commence à babarer de l'argent, il bave, garder l'argent comme ça, il gaspille l'argent dans des vides comme ça, alors que les populations n'ont pas ce problème-là. Nous, on a un problème futurement qui n'a qu'à essayer une solution privée ou bien il n'a qu'à quitter et nous laisser tranquillement le pays. Mais actuellement, il n'y a rien. Même la semence est en retard et plus il n'y a pas de d'engrais au moment qu'il faut donner. En retard, la pluie est déjà tombée, tu donnes en paysan un engrais. Comment il va faire avec ça?
D'autres pensent que les villageois doivent revoir le choix des chefs de village. Ils proposent même des élections.
On doit organiser des élections dans les villages, dans les différents villages pour élire un chef de village. C'est ça qui est normal. Parce qu'en ce moment, ces villageois-là sont comment procéder pour que ce dernier la passe, parce qu'il faut juger, il faut prendre celui qui est compétent à travers ses compétences, parce qu'on ne va pas choisir un profane pour un chef de village à l'heure actuelle.
Ces populations ont décidé de boycotter la rencontre de compte rendu de ces chefs de village une fois sur place. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média.
Manifestation populaire au Sénégal, le pouvoir à travers le chef de l'État, pour citer l'Observateur du jour, accuse les médias d'avoir jeté de l'huile sur le feu lors du 23 juin. Mais qu'en pensent les citoyens ordinaires? Pour eux, le président de la République n'a pas tout à fait raison. Un écran de fumée soutient ces citoyens pour qui la presse n'a fait que jouer son rôle. Reportage Charlotte Lalanne.
Les médias colporteurs de violence, l'accusation est vieille comme le monde, mais Monsieur Diagne, instituteur, dément.
Les médias, leur rôle, c'est d'informer la population. Le fait bon de rapporter ce qui se fait pas de leur rôle, parce que les Sénégalais maintenant sont assez responsables, sont conscients, ils savent ce qu'ils veulent. Maintenant, il y a la pluralité des médias et les Sénégalais, de plus en plus, sont éveillés. C'est le rôle, n'est-ce pas, que jouent les médias dans la conscientisation de la population. Et ça, le pouvoir ne peut pas l'accepter.
S'en prendre aux médias, trop facile pour cette femme. Pour elle, c'est éviter le problème principal, la cherté de la vie.
Les médias, ils n'ont rien fait. Ils disent ce que l'ont le président et son fils. C'est eux qui font ce qu'ils veulent. Maintenant, nous sommes des pauvres, on n'a rien. On n'a plus de projet. C'est le président Abdoulaye Wade et son fils et ses ministres. Ça partage tout.
Même son de cloche chez Monsieur Diop, commerçant, charge les médias, n'a pour seul but que de faire diversion.
Les médias ne font que informer la population de ce qui se passe dans la vie, dans le pays. Mais ça, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être tout. Essayer de semer la zizanie dans l'esprit des gens.
Le président Abdoulaye Wade compte pourtant bel et bien remonter les bretelles de la presse. Il prévoit une rencontre avec les grands patrons du secteur dans les prochaines semaines.
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, n'en démord pas. La presse a joué un rôle dans la diffusion et l'amplification des événements des 23 et 27 juin. Mustapha Guirassy estime qu'il est nécessaire de procéder à une concertation des acteurs concernés pour éviter les dérives.
Ce sont les journalistes eux-mêmes, en tout cas une grande majorité de journalistes, qui tient absolument à revivre cette orthodoxie et puis revivre cette éthique journalistique. Donc, de ce point de vue, c'est pas un discours du pouvoir, mais c'est simplement un constat. Et je pense que qui peut être partagé. Puis, si vous posez aussi la question à travers les ondes, c'est peut-être parce que la question mérite d'être posée et débattue. Maintenant, qu'est-ce que nous devons prendre comme décision? Il faut simplement dire ici que le ministère de l'Information met en œuvre une politique en matière de communication, en matière d'information. Nous avons des instances de régulation. Il y a aussi, au niveau du secteur de la presse, des instances d'autorégulation. Il est curieux de voir, en fait, que les instances d'autorégulation ne sont pas saisies ou s'autosaisies par rapport à certaines situations que nous avons vécues. Et ce serait certainement du ressort de l'instance de régulation par rapport aux chaînes de télévision, par exemple, le secteur audiovisuel, de prendre aussi des mesures. Maintenant, je pense que le Sénégal est un pays de dialogue, dans une logique de concertation avec le chef de l'État, avec tous les acteurs concernés. Il serait bon, ensemble, que nous puissions donc faire une analyse complète et objective de la situation et de l'action de la presse, et de la responsabilité aussi des uns et des autres, et en fonction de ça, que les institutions concernées, et puis que les différents acteurs aussi, puissent assumer leurs responsabilités, et puis éviter donc de vivre de pareilles situations.
Le ministre de la Communication, toute tentative de vouloir museler la presse sera vaine. La réaction d'Ibrahim Khalilou Ndiaye, le secrétaire général adjoint du CEMPIX, estime que la presse a atteint un niveau de développement tel qu'il est impossible de la contrôler, même si des concertations sont nécessaires. Ibrahim Khalilou Ndiaye, que nous écoutons.
Je pense que fondamentalement, la presse est limitée à faire son rôle, à savoir informer. Maintenant, sur cette rencontre, comme je le disais tantôt, on ne peut rien préjuger de celle-ci. Il faudrait être attentif et suivre le cours des choses, l'évolution des choses. Mais ce que je peux dire simplement, c'est qu'on a atteint un stade où il n'est plus possible, je pense, de museler la presse sénégalaise, puisque la presse sénégalaise, quand même, respire par son professionnalisme et soutient un peu partout. Le travail qu'elle effectue depuis des années a été salué bien avant l'avènement de l'alternance politique de 2000, a été salué de part et d'autre. Maintenant, s'il y a eu des tentatives, je me dis que ils vont se heurcher peut-être à un obstacle très grand, puisque au-delà même des patrons de presse, cette rencontre qui est élargie également aux autres publications, je pense que ne faut pas empêcher aux journalistes, quelles que soient les conclusions ou les recommandations qui en seront ici, de faire leur boulot. En réalité, ce sont les journalistes qui descendent sur le terrain. Le journalisme, c'est les faits, c'est le terrain, donc la meilleure réalité, c'est celle du terrain. Et les patrons de presse, ou bien les initiateurs d'entreprises de presse, ne sont pas forcément des professionnels de l'information. Les journalistes, à leur niveau, c'est des professionnels. Ils savent ce que c'est une information, comment la traiter et comment se procurer une information.
Rassemblement du M23 sur la place de l'Indépendance samedi. Le mouvement du 23 juin va manifester contre la candidature du président Wade pour un troisième mandat. Le M23 pourra-t-il réussir ce 23 juillet la même mobilisation? Reportage de Babacar Fall sur l'enthousiasme des populations.
Sur cette avenue très passante de Dakar, ça discute du 23 juillet. Mamadou est taulier. Il est convaincu d'une grande mobilisation samedi prochain autour du mouvement du 23 juin.
On va refaire ce qu'on avait fait le 23 juin. On va sortir dans la rue à nouveau, manifester, parce qu'on pensait que les vieux allaient faire un discours, répondre à nos attentes, mais rien de cela n'a été fait. Dès l'instant où rien de nos attentes n'a été pris en charge, on va descendre à nouveau dans la rue.
Quelques instants plus tard, nous rencontrons Cher, un commerçant qui estime que la déclaration du président Wade le 14 juillet n'a fait qu'accentuer la colère de l'opinion. Alors pour lui, ça va encore mobiliser le 23 juillet.
Vous savez, Wade, c'est quelqu'un qui aime les histoires. Moi, je pensais qu'il allait appeler au calme et trouver des solutions, mais il a encore incité à la violence. Regardez ce qu'on a fait au député, comment il s'appelle, Elias Diouf. on l'a bastonné et puis on a offert un 4x4 à celui qui l'a bastonné. Ça, c'est pas bien. Et puis, il a plus de 80 ans, il faut qu'il arrête.
Nek ki bi parce que mom wourna le ne Ablaye Wade xam nga ne magat na amna 86 ans ko xam nga ne mën teur Sénégal.
Toutefois, il y en a qui ne souhaitent pas sortir le 23 juillet, préférant attendre la présidentielle. Abdul Aziz, plombier.
Je crois que actuellement les Sénégalais ont vu de loin, on attend peut-être le 26 février. Les élections, oui, comme moi, quoi.
Et pour ceux qui vont manifester le 23 juillet, Dibril, un agent municipal les appelle à la non-violence.
Les casse-mômes, je ne suis pas d'accord pour casser des véhicules.
Paternité d'AJPAD, c'est finalement une audience spéciale prévue le 3 août qui va départager Landing Savané et Mamoudou Diop de Croix. À l'audience de ce matin, la demande de renvoi des avocats de Landing Savané a été acceptée par le juge. Et puis, affaire du mauvais fuel utilisé par la Sénélec en juillet 2010, donc l'année dernière, un expert français commis par le tribunal hors classe de Dakar mouille la Sénélec et son fournisseur Itok. En revanche, la société Oryx est blanchie, une information révélée par le journal Enquête.
RFM. L'actualité internationale.
Bonjour Antoine Diouf.
Bonjour Mamoudou.
Guinée-Conakry, plusieurs responsables des attaques contre la résidence du président de la République ont été arrêtés.
Oui, chez des arrestations, mais également de nombreuses questions demeurent en suspens, bien sûr. Et en plus de tout cela, on craint de nouveau l'instabilité en Guinée, Sornana Tambay.
Quelques heures après l'attaque de la résidence du président Alpha Condé, l'inquiétude demeure au sein des populations de Conakry. Elles craignent une fois de plus une situation d'instabilité comme cela a été le cas ces dernières années. Des présumés responsables de l'assaut ont été arrêtés selon les autorités. Néanmoins, ces événements constituent une véritable surprise pour les habitants de la capitale. Les Guinéens auraient aimé résoudre leurs difficultés liées à la cherté de la vie, à l'eau, à l'électricité, mais surtout à la réconciliation nationale. Pour le moment, l'enquête se poursuit et les deux principaux commanditaires ont été arrêtés, à en croire Alpha Condé. Le premier, l'ancien chef d'état-major de l'armée, le général Nuhu Tiam. En dehors de cette information, aucune autre précision. Le chef de l'État a déclaré sur RFI que l'attaque était plus une tentative d'assassinat qu'un coup d'État manqué, ce qui ne rassure guère l'opposition qui craint un prétexte à une chasse aux sorcières.
Sornana Tambay à Conakry, notre correspondant a donné la parole à quelques citoyens guinéens qui se prononcent sur ces récents événements. Micro-trottoir réalisé par Amadou Amzaba.
Vraiment, je condamne fermement. Ça ne m'a pas plu. Mais je demande au peuple de Guinée tout entier d'être serein, la cohésion, de donner la main, de ne pas déchirer la tissu sociale.
L'attaque a eu lieu, la maison a été attaquée, mais le président n'était pas là-bas. Parce qu'à 2h du matin, je l'ai rencontré au carrefour Mafanko. Donc par conséquent, j'ai des doutes sur l'origine. Est-ce que ce n'est pas un moyen de se débarrasser de certaines personnes? Le président n'était pas. Il faut que ce soit sûr pour tous les Guinéens.
Un président qui est démocratiquement élu pour la nation. Nous avons fait des 50 ans de retard, on veut pas maintenant ça. On veut aller en avance et maintenant revenir en arrière.
Guinée, ce n'est pas bon pour l'investisseur étrangers. Quand chaque fois il y a un problème sur nous, les gens vont avoir peur de venir sur nous. Et ce que j'ai accroché à mon président professeur Alpha Condé, c'est de faire beaucoup attention. Écoutez tous les Guinéens, pas seulement le Malinké, le Tchoussou, le Paul ou le Forestier.
Ça peut être perpétré par lui, le président lui-même. Ça peut aussi être un ras-le-bol des militaires qui viennent l'attaquer.
Kadhafi peut rester en Libye s'il se tient à l'écart de la politique. C'est une déclaration du ministre des Affaires étrangères de la France.
La France est formelle et c'est Alain Juppé qui fait savoir que le président Kadhafi peut bien rester en Libye pourvu qu'il se tienne à l'écart de la vie politique. Il clarifie ainsi une hypothèse déjà évoquée par le ministre de la Défense français. Gérard Longué-Numaba reviendra sur cela. Et puis, des nouvelles d'Hosni Moubarak, son état de santé stable, mais il a un rythme cardiaque irrégulier et il perd parfois connaissance et manque de concentration. C'est ce qu'a déclaré hier l'agence de presse officielle égyptienne MENA, qui a cité une source médicale. C'est tout pour l'actualité internationale.
Bien, merci Antoine Diouf.
Parole aux auditeurs.
L'actualité, qu'en pensez-vous?
Moi, je pense que vous devez.
Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité.
Bonjour.
Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM.
Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
La parole sur le BFM 2011. Que pensez-vous de la décision du gouvernement de supprimer la double correction? Rendez-vous tout à l'heure, 12h30. RFI Sport. Bonjour Malal Diagne Junior.
Bonjour Mamoudigra.
Football, El Hadj Ousseynou Diouf attendu aujourd'hui par la commission de discipline de la Fédération Sénégalaise de Football. Le joueur doit répondre à une plainte des fédéraux.
Et oui, et donc il est attendu par les membres de la commission de discipline. Ils sont au nombre de 7. À 12h moins le quart, 3 membres étaient déjà dans les locaux de la Fédération Sénégalaise de Football. El Hadj Diouf qui est annoncé ce matin à Paris en France par le journal Stade. Mais nous attendons de voir après 12 heures ce qui va être fait par les membres de la dite commission. Rappelons que El Hadj Diouf est victime d'une plainte des membres de la Fédération sénégalaise de football qui l'accusent d'avoir injurié l'ensemble du football sénégalais.
Une affaire que nous suivons donc. Football toujours, préparation des Navetan 2011, un conseil interministériel organisé ce mercredi.
C'est la troisième fois que l'on organise une telle rencontre avant le démarrage des activités de vacances. L'ONCAV compte mettre sur la table l'ensemble des problèmes auxquels la structure fait face pour trouver des solutions. Amadou Kane, président de l'ONCAV, est au micro de RFM.
Je voudrais préciser que c'est le gouvernement même qui nous a proposé cette date. On a répondu favorablement pour qu'ensemble qu'on essaie de voir les problèmes. Ensemble aussi, on va identifier les solutions.
Depuis 3 ans que vous faites ce conseil interministériel, qu'est-ce que cela a changé dans le déroulement des navetables?
Mais ça a beaucoup changé. Il faut dire que au-delà du problème de sécurité, nous avons eu à trouver ensemble des solutions. Les problèmes d'infrastructure aussi, nous avons attiré l'attention de l'État par rapport à certaines infrastructures qui étaient en réflexion. L'État, n'est-ce pas, est en train de bien suivre ce que le Navetan est en train de faire. Cette année aussi, c'est le même problème qu'on va essayer de voir, n'est-ce pas, partout dans le pays. Est-ce que le Navetan peut se tenir? Dans quelles conditions? Que ce soit le problème d'infrastructure, le problème de la sécurité, le problème de la violence, les activités qu'on aura à faire. Nous avons déjà fait un rapport exhaustif de la situation de l'année dernière avec de bonnes perspectives. Mais le conseil aussi, ce n'est pas seulement des problèmes de sport et de la culture, c'est les autres aspects aussi. Le problème de l'emploi des jeunes, n'est-ce pas? Le problème de la santé, l'environnement, l'éducation. Donc c'est tous les problèmes qui concernent notre démembrement qu'on aura à discuter avec l'État.
Football, toujours à 17h, on va jouer la deuxième demi-finale de la Coupe du Sénégal chez les seniors. Ce sera au stade Demba Diop et l'Union Sportive de Wakam va affronter l'équipe du Casasport. Le vainqueur aura pour adversaire en finale l'équipe de Touricunda qui a réussi à battre l'équipe de Saint-Louis Football Centre sur le score de 4-0.
Afro-Basket, les Lions du Sénégal entrent en regroupement à 19h.
À 19h, à Marius Ndiaye, c'est donc le lieu et l'heure de la convocation des 19 Lions présélectionnés par le coach Moustapha Gueye. Les Lions vont loger à l'hôtel des Almadies. Le travail va démarrer demain. L'objectif assigné à cette équipe nationale est la défense du titre conquis à Madagascar il y a 2 ans.
Moi, basket fini. Hein.
Ah non, basket toujours, Mamoudou, avec les dirigeants de Saint-Louis Basket Club qui menacent de ne pas participer à la prochaine finale du championnat puisque l'équipe fait face à des problèmes financiers, d'où l'appel des dirigeants qui veulent que les autorités saint-louisiennes mettent la main à la poche pour venir en aide à l'équipe. Lafond est le manager général de Saint-Louis Basket Club.
Les autorités, on a lancé des appels, je crois que les autorités nous entendent. Nous avons 3 finales à jouer pour 15 jours ou pratiquement 20 jours pour que ça s'arrête au 30. J'espère qu'il y a eu cet écho-là. On les attend pratiquement et des finales, ça se prépare et je vous le dis tout de suite, nous ne voulons pas perdre les trophées à Dakar. Si nous ne sommes pas aidés, si nous on n'est pas bien préparés, nous serons obligés de rester encore à Saint-Louis, de ne pas jouer les finales. Et là vraiment, je lance un appel encore solennel aux autorités de Saint-Louis, aux Saint-Louisiens pratiquement, qui nous entendent, de faire quelque chose pour mettre les deux équipes dans d'excellentes conditions pour ramener les trophées à Saint-Louis. Ce n'est pas une menace, c'est rien du tout. On est très optimiste, mais encore une fois, nous comptons sur les fils de Saint-Louis et je sais qu'il y en a encore une. Nous travaillons pour Saint-Louis, donc je crois qu'il est temps que ces gens-là viennent. Ouais, ils doivent venir.
12h25, Mamoudou Méridien, c'est pour moi l'heure de quitter le studio.
Merci, Malal.
RFM, la chronique du jour.
Une chronique actualité d'Aliou Ndiaye.
Abdoulaye Wade a posé sa scène dans le décor paysager de la campagne, une sortie électorale bucolique, burlesque et grotesque. Le président sortant a fait fort dans sa volonté de capitaliser l'incrédulité de la population rurale. Les promesses ont foisonné allant du plus réaliste au plus farfelu. Wade a promis des indemnités et l'augmentation du prix aux producteurs de l'arachide pour la prochaine campagne. Le candidat de l'Alliance Sopiu pour toujours était jusque-là dans son rôle, un politique qui déroule une stratégie dans le but de s'attirer les faveurs d'une partie de l'électorat. L'utilisation de l'argent comme moyen est assez choquant, mais le pire est ailleurs. Wade joue sur le registre émotionnel du rapport affectif entre le vieux nègre et la médaille. Il promet des drapeaux sur la cage de chaque chef de village pour le distinguer des autres, une carte professionnelle, un téléphone et du crédit. Il envisage même de leur délivrer un permis de port d'armes comme les policiers, les gendarmes et les militaires. Comme les magistrats, ils seront protégés contre les outrages. Désormais, se disputer avec un chef de village peut mener en prison. Toutes ces mesures ont fait sourire bon nombre de nos compatriotes. La rencontre entre Wade et les chefs de village d'hier était drôle et dramatique. Elle renseigne sur le manque de vision et la dégénérescence de nos institutions. Et si tous les chefs de quartier se mettaient à demander les mêmes faveurs, le président sortant a ouvert une véritable boîte de Pandore. Le bénéfice électoral escompté n'est pas garanti, car aujourd'hui, chef de village, chef de quartier, imam ou même chef de famille, la galère est la chose la mieux partagée.
Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures, vous offre